Jérôme, évidemment, on est encore en train de gérer la crise de santé publique, mais à un moment donné, il y a l'économie aussi,
oui,
qui va peut-être nous revenir directement dans le visage. Et il y a des gens qui se sont penchés sur cette question-là. Le Comité des politiques publiques de l'Association des économistes québécois et l'Institut du Québec qui ont réuni des experts un peu avant Noël pour dégager des propositions pour affronter les défis que représenteront les finances publiques du Québec. On va en parler avec la présidente et directrice générale de l'Institut du Québec, Mia Hamzy, à qui on parle de temps à autre. Bonjour, Mia.
Bonjour.
Mia, premier élément que j'ai trouvé intéressant en lisant le document que vous avez produit, c'est cette notion que les gouvernements ne sont pas nécessairement encore dans une dynamique de penser à long cours, à long terme, si on veut, parce qu'on est tellement dans la gestion actuelle qu'on ne pense pas nécessairement aux impacts économiques, mais tôt ou tard, il faudra le faire.
Mais c'est certain qu'en ce moment, en plus, avec la deuxième vague, le fait que finalement c'est pire que probablement plusieurs gouvernements l'auraient espéré. Toutes les énergies sont mises dans la gestion de crise, mais en même temps, quand une situation se prolonge, on ne sait pas quand ça va finir, ça fait presque un an, faut commencer à penser aux conséquences aussi budgétaires de nos actions parce que ça peut aussi déterminer les choix qu'on va faire maintenant. Et en plus, au Québec, on a une loi qui s'appelle la loi sur l'équilibre budgétaire, qui a des contraintes là, très spécifiques, puis la loi sur la réduction de la dette. Donc, au prochain budget, théoriquement, là, si le ministre respectait la loi, il nous présenterait un plan de retour à l'équilibre budgétaire. Mmh. Donc, c'est sûr qu'il faut commencer à y penser tout de suite.
Mais au Québec, on est comme, bien évidemment, avec deux gouvernements, le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral, on est comme témoin, il y a comme deux mentalités là-dedans. On sent que le gouvernement du Québec est plus prudent, est un petit peu plus, disons, consciencieux du respect des contraintes, du cadre budgétaire, de limiter le déficit. Alors qu'à Ottawa, on a décidé de dépenser, puis je trouve qu'ils n'ont pas un mauvais argument à Ottawa sur les taux d'intérêt qui sont très, très bas actuellement. Je ne sais pas s'il y a une des deux façons qui est meilleure que l'autre, mais il reste qu'il y a quand même deux mentalités qui peuvent s'affronter là-dessus. Là.
Bien, en fait, c'est vrai que les approches sont tout à fait différentes, mais cette fois-ci, j'ai le goût de dire qu'elles sont assez complémentaires parce que en temps de crise, c'est souvent le gouvernement fédéral qui a le rôle d'intervenir pour soutenir les travailleurs, soutenir les entreprises. C'est le rôle du fédéral. Les provinces, elles, s'occupent de la santé, de l'éducation. Donc, c'est plus après la crise qu'elles vont voir leurs dépenses vraiment continuer de s'alourdir. Donc, c'est bien que les provinces, surtout le Québec, soient prudentes et que le fédéral prenne le relais quand ça va mal. Là, ben, c'est sûr qu'il y a une question de dosage.
Mais en même temps, Mia, dans le document aussi, vous parlez du fait que, bon, on peut s'endetter dans une période qui est particulière comme celle-là, tout en contrôlant le poids de la dette sur l'économie. Mais vous dites, et je cite, il devrait être possible d'accroître l'endettement en période de crise, mais il faudrait également s'assurer de le réduire en période de croissance économique. Je ne veux pas faire le procès de ce qui a été fait dans les dernières années parce qu'on regarde vers le futur, mais il reste que ce n'est pas du tout ce que le gouvernement fédéral a fait au cours des dernières années.
Là. Mais effectivement, ce qu'on prône, c'est vraiment que oui, c'est bien correct de s'endetter quand ça va mal, mais à un moment donné, il faut aussi s'assurer que quand ça va bien, ben on encaisse un peu, là. On accumule soit des surplus, soit qu'on s'assure que l'économie croît à un rythme important et que les taux d'intérêt augmentent pas plus rapidement que la croissance de l'économie. Et c'est ce qui a sauvé le gouvernement fédéral au cours des dernières années, qui va continuer de le sauver au cours des prochaines années aussi, parce que les taux d'intérêt sont tellement bas que même si on s'endette beaucoup, dans le fond, le service de la dette, là, ce que ça nous coûte pour s'endetter, bien, c'est pas plus élevé par rapport, tu sais, en proportion des revenus, puis même en absolu là, au cours de la dernière année. Donc, ça nuit pas aux autres services. Le fait que les taux d'intérêt soient bas, ça fait qu'il y a pas de raison de paniquer là, puis d'être alarmiste en ce moment malgré l'endettement record.
Vous avez réfléchi aussi à une question, vous posez la question, est-ce que les outils qui encadrent la gestion budgétaire doivent être revus? De quels outils on parle et est-ce que oui ou non ça doit être revu, ces outils-là? Là?
OK, parfait. On parle du gouvernement du Québec parce que le gouvernement fédéral, juste le mentionner, n'a pas de loi, n'a pas d'obligation en ce moment. Donc, il pourrait s'endetter puis c'est ce qui sécurise un peu certaines personnes. Mais au Québec, c'est exactement le contraire. On a deux lois très claires qui contrôlent, qui nous disent qu'on doit être à l'équilibre budgétaire de manière générale, à part quand il y a une crise, comme en ce moment une récession, on a le droit de faire des déficits pendant une période de 5 ans. Et on a aussi des obligations de verser des sommes à chaque année dans un fonds qui s'appelle le Fonds des générations, qui sert dans le fond à rembourser la dette. Et on a aussi des obligations quant à nos cibles d'endettement. Donc, le Québec est vraiment... Il y a tous les aspects qui sont couverts par la loi. Donc, ça a des côtés positifs, ce qui fait que notre endettement a quand même beaucoup baissé au cours des dernières années. Puis, on n'est plus la province la plus endettée. L'Ontario est rendu plus endetté que nous, ce qui est très, très, très inhabituel quand on regarde l'histoire là, du Québec. Mais il y a aussi des conséquences qui fait que quand ça continue d'aller mal comme en ce moment, bien, le gouvernement n'a pas beaucoup de marge de manœuvre pour faire des investissements.
Mais donc, le Fonds des générations, peut-être rappeler un peu son utilité et le questionnement qu'on peut avoir par rapport à ça. Est-ce qu'on doit continuer à le financer autant, geler les montants? Comment, qu'est-ce qu'on fait avec le Fonds des générations?
OK. L'idée du Fonds générations, là, ça a été créé en 2006. Puis, ça a été assez consensuel là, au sein de la classe politique à Québec. Puis, dans le fond, l'idée, c'est quoi? C'est de voir qu'on s'endette, on était très endetté. Le Québec, à cette époque-là, était la province la plus endettée. Puis, on avait une population qui vieillissait. Donc, on était bien conscient qu'on allait devoir payer cher en santé puis qu'il n'y aurait pas assez de monde nécessairement pour payer les impôts. Donc, on s'est dit, non, il faut absolument faire quelque chose. On va économiser. À chaque année, on a de l'argent qui vient des redevances d'Hydro-Québec, etc., qui vont absolument aller dans ce fonds-là. C'est obligatoire, la loi l'oblige. On ne peut pas utiliser cet argent-là pour faire autre chose qu'aller dans le fonds puis rembourser la dette. Éventuellement rembourser la dette, mais ça fait baisser le poids de la dette. Et au fil des ans, les sommes ont augmenté. Donc, pour faire des chiffrons, là, on verse à peu près 3 milliards par année dans ce fonds-là. Puis pour dire qu'on est à l'équilibre budgétaire, là, c'est considéré après qu'on a versé cet argent-là. Donc, en ce moment, on fait des déficits. C'est possible de se dire, OK, ça vaut-tu vraiment la peine de faire un déficit puis d'emprunter de l'argent pour mettre des sommes dans le fonds des générations où on peut se permettre de se dire, bon, ben quand ça va mal, peut-être qu'on peut arrêter de mettre de l'argent pour rembourser la dette puis reprendre ça quand ça va aller bien. Et nous, ce qu'on dit, c'est oui, c'est correct de le faire si c'est temporaire. On n'est pas obligé. Mais si on voit qu'on est pour couper dans les soins de santé ou, je sais pas, monter les impôts, peut-être se dire, ben on peut ralentir le remboursement de la dette, là, puis au lieu de même pas s'endetter davantage pour verser dans le fonds des générations temporairement.
Hey, mais ça, vous parlez du système de santé. Ça, c'est un point qui est très, très important là, sur le plancher des vaches dans le quotidien de tout le monde. Là, je pense qu'il va y avoir une pression ailleurs aussi, mais beaucoup au Québec, c'est ce qui nous concerne de plus, pour investir davantage en santé. Est-ce que ça passe d'abord et avant tout par les transferts fédéraux ou le provincial va devoir trouver d'autres façons aussi de financer davantage le système de santé?
Mais le système de santé, c'est l'éléphant dans la pièce depuis des années. Là. C'est ça qui accapare la plus grande partie du budget du Québec. Là. Dépendamment, si on regarde vraiment le budget du gouvernement, c'est 50%. Si on regarde l'ensemble du budget de l'État, c'est plus autour de 40%. Mais bref, ça augmente beaucoup, puis c'est le gros morceau. Donc, c'est sûr que ça écrase l'argent qu'on peut mettre ailleurs, ou sinon, ben ça fait qu'on doit s'endetter. Puis la voie que le Québec a choisie au cours de la dernière décennie, c'est un équilibre. Dans le fond, on augmente quand même autour de 4% environ là, les dépenses en santé en moyenne, ce qui est plus égal ou plus que la croissance de notre économie. Donc, à long terme, si on investit plus que ça. Dans le fond, si ça augmente plus que ça, plus que la croissance de l'économie, bien, ce que ça fait, c'est que soit ça écrase tout le reste de l'État, qui a déjà pas beaucoup d'argent, là, la culture, le tourisme, le développement économique, c'est d'autres ministères que pour financer la santé, il faudrait quasiment les abolir, là, si je caricaturise. Donc, oui, on a un enjeu avec la santé. Ottawa a, depuis quelques années, décidé qu'il plafonnait au niveau du PIB nominal, donc la croissance de l'économie, les transferts aux provinces. Évidemment, les provinces sont mécontentes. Avant, ça augmentait plus que ça. Ça avait commencé avec Harper, l'idée d'être moins généreux dans les transferts en santé aux provinces, et le gouvernement Trudeau a complété dans la même voie. Les provinces, d'ailleurs, avec notre premier ministre et celui de l'Ontario, demandent plus d'argent du fédéral. Ils veulent que la contribution du fédéral soit beaucoup plus élevé, passe de 25 % à 35 % du financement de la santé. Mais bien honnêtement, je crois pas que ça va se passer. Là, politiquement, il n'y a pas beaucoup de gains possibles à faire là-dessus pour le gouvernement Trudeau. Là.
Mia, je veux absolument qu'on parle avant qu'on se laisse des infrastructures, parce qu'il y a peut-être certains décideurs, politiciens qui, bon, aimeront pas nécessairement le constat que vous amenez dans le document. Vous dites, oui, les infrastructures, un investissement dans les infras pour la relance économique, c'est une bonne idée, mais ça peut être un piège aussi si on pense pas à notre déficit d'entretien de nos vieilles infrastructures et qu'on se penche juste du côté des nouvelles infrastructures qui sont plus sexy, qui sont plus favorables, par exemple, à la réélection ou au respect des engagements électoraux. Mais quand même, il faut penser à cette problématique-là, à cet enjeu-là.
Bien, c'est sûr, parce que depuis que le pont de la Concorde s'est effondré, là, le gouvernement du Québec a décidé d'investir beaucoup plus. Là. Il y a comme une prise de conscience collective qu'on avait laisser tomber là, l'entretien des infrastructures, puis ça pouvait commencer à être dangereux. Donc, on a doublé, triplé les sommes qu'on investit dans les infrastructures depuis. Il y en a qui est pour l'entretien, mais il y en a surtout qui est pour des nouvelles routes, des nouvelles écoles, des hôpitaux, là, t'sais, tout le CHUM. En tout cas, on a investi dans des grands projets, on a le REM. Ça coûte cher à construire, mais ça coûte cher à entretenir, puis on n'est déjà pas capable de mettre à niveau qu'on a comme infrastructure. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est attention, là, quand on en construit des nouvelles, il faut penser que ça va coûter de l'argent à l'entretenir. Puis, honnêtement, par rapport à l'ampleur du budget des infrastructures maintenant, puis ce que ça coûte à entretenir, il n'y a pas assez de suivi, de supervision, de transparence là-dessus. Je pense que ça devrait être un grand chantier des prochaines années de s'assurer qu'on choisit mieux et on choisit bien les projets dans lesquels on investit, puis qu'on s'assure après qu'on est capable au moins de les entretenir.
Ouais. Hey, mais ça, c'est intéressant parce qu'on le vit, entre autres, à Québec. Tu sais, vous parlez du REM, mais à Québec, il y a le projet de tramway, de réseau de transport structurant. Puis on nous parle jamais de ça, là. Les frais d'entretien, puis l'entretien à long terme, il n'est jamais, jamais question de ça. Puis on nous présente comme une espèce de baguette magique, là, les coûts, l'argent qui va être dépensé pour la construction en disant que ça va nous faire travailler des gens, mais on ne nous dit pas tout quand on nous parle de ça.
Bien, premièrement, on nous dit pas tout par rapport au coût de l'entretien parce que politiquement, vraiment, je pense qu'il n'y a pas de sujet plus plate que ça. Puis deuxièmement, ben oui, on fait travailler du monde, mais c'est pas dans la construction qu'on a besoin de faire travailler du monde. Là, n'importe qui essaie de faire des travaux dans sa maison, tu sais, là, c'est difficile de trouver du monde en construction. Il faut juste adapter un peu là, nos politiques de relance aux vrais besoins de la main-d'œuvre. Ils travaillent, là, les gens en construction, ils vont travailler pour les prochaines années. Si on a trop de projets comme ça, sans penser à qui va les faire, ce que ça va faire, c'est que ça va nous coûter plus cher. Ça va avoir de l'inflation. Les travailleurs vont coûter plus cher, les matériaux vont coûter plus cher. Fait qu'on atteint un point où il faut commencer à réfléchir à ça aussi avant d'annoncer des projets. On a des beaux défis dans les infrastructures qui nous attendent.
Très, très, très intéressant comme toujours. Merci beaucoup, Mia.
Merci.
Merci.
Merci, Mia Hamzi, qui est présidente et directrice générale de l'Institut du Québec.